La poupée. Aussi loin que se reportent dans le passé mes souvenirs, je revois la vieille marquise de Flavigny, souriante et sereine, habituellement assise dans une antique bergère garnie de velours couleur de pêche, sur lequel se détachaient ses cheveux gris et ses grands bonnets de dentelle ornés de nœuds tremblants. Près d'elle se tenait presque sans cesse, sur une chaise basse, une femme du même âge, souriante aussi, le visage calme et apaisé. On appelait celle-ci Mademoiselle Odile. Ce n'était pas une servante. Une grande familiarité semblait unir les deux vieilles, qui, tout en tricotant d'affreux jupons de laine bleue à grosses mailles qu'elles distribuaient aux pauvres le jeudi matin avec une miche de pain et 5 pièces de 2 liards, échangeait à voix basse, d'un air de camaraderie, presque de complicité, d'interminables confidences. À certains jours, jours de grand rangement, quand le tricot chômait, les deux amies entreprenaient la visite de leurs armoires, immenses bahuts de chêne verni à longues pommelles de cuivre, avec des entrées de serrure, étroites et hautes, découpées en arabesques. Elles ouvraient des boîtes, enrubanait le linge, étendait sur les rayons de beaux napperons brodés, et poussetait, frottait toute la journée. Nous étions là une bande d'enfants, admis à ce spectacle salutaire, à condition de ne toucher à rien. Au fond d'une de ces mystérieuses armoires, comme en un sanctuaire, reposait debout, dans une boîte de verre, un objet pour lequel les deux dames semblaient avoir une sorte de vénération. C'était une grande poupée, vêtue à l'ancienne mode d'une robe de soie élimée. Les années l'avaient faite presque chauve. Son nez était cassé, ses mains et son visage étaient écaillés et dévernis, et je me rappelle qu'elle n'avait plus qu'un soulier, un vieux soulier, de maroquin tout craquelé, avec une boucle d'argent noircie et un haut talon qui avait été rouge. Quand elles en arrivaient à cet imposant bibelot, la marquise et Mademoiselle Odile le déplaçaient avec des ménagements d'enfants de cœur maniant un reliquaire. Elles en parlaient à voix craintive, en phrases courtes. « Elle a encore perdu des cheveux. Son jupon est maintenant tout usé. Voilà un doigt qui tombera bientôt. » On soulevait avec 1000 précautions le couvercle de verre. On rajeunissait le poivre. On défripait la jupe à petits coups d'ongles très prudents. Puis on remettait la poupée en place, debout sur le plus beau rayon, comme sur un autel. « Tient-elle bien, mamie ?» demandait la marquise. C'est ainsi qu'elle désignait Mademoiselle Odile. Celle-ci, familièrement, l'appelait Madame Solange, sans jamais lui donner son titre, parlant avec une sorte d'accent lointain d'Alsace, sans rudesse pourtant, et si discret qu'on l'eût dit estompé par le temps. Nous n'en savions pas davantage sur l'histoire des deux vieilles dames et de leurs poupées, quand, un soir, c'était la veille de Noël d'une année qui est déjà bien loin, nous fûmes d'un coup initiés à tout le mystère. Ce jour-là, Odile et la marquise avaient bavardé avec plus d'animation encore qu'à l'ordinaire. Vers le soir, toutes les deux s'étaient recueillies et avaient fait silence. Les mains jointes, elles se regardaient d'un air attendri et l'on devinait qu'un commun souvenir leur remplissait l'âme. Quand la nuit fut tout à fait tombée, Odile alluma les bougies. Puis sortant de dessous son tablier un trousseau de clés, elle ouvrit l'armoire à la poupée. On tira la poupée de sa boîte. Dans ses falbalas ternis, avec sa tête sans cheveux, elle paraissait bien plus vieille que les deux dames qui se la passaient, de main en main, avec des mouvements soigneux, presque tendres. La marquise la prit sur ses genoux, ramena doucement le long du corps les bras de plâtre dont les jointures firent entendre un vieux petit grincement, semblable à une plainte, et elle se mit à contempler la dame avec un sourire plein d'affection. « Mamie, fit-elle, comme parlant à la poupée, si je contais à ces petits notre histoire ?» Ce fut Odile qui remua gravement la tête en manière d'acquiescement. La marquise nous fit signe de nous grouper autour d'elle. Elle tenait la poupée assise sur ses genoux. C'est à elle qu'elle semblait adresser son récit. Elle dit d'abord que bien des années auparavant, alors qu'elle-même était une enfant, la guerre civile dévastait la Bretagne, pays où elle était née. C'était l'époque de la grande épouvante. Dès les premiers jours de 1792, les parents de la petite Solange avaient émigré, la confiant, par crainte des hasards de l'exil, aux soins d'une paysanne de Ploubalay, un bourg voisin de leur château, près de la côte malouine. Ils étaient d'ailleurs persuadés que la bonne cause triompherait et que leur absence serait courte. Mais presque aussitôt, la frontière s'était fermée. Des lois impitoyables frappaient les émigrés qui tentaient de rentrer en France. Une effrayante tourmente passait sur la Bretagne. Solange, tout le temps que dura le sanglant ouragan, resta chez les villageois auxquels elle avait été remise, les Rouault, bonnes gens terrorisées, sans nouvelles des parents de la fillette, sans possibilité de communiquer avec eux, la loi punissant de mort toute tentative de correspondance avec les émigrés. Ploubalay est un gros village à 3 lieues de Saint-Malo, distant d'une demi-heure de la côte. Celle-ci est hérissée de rochers roux et protégée par un archipel de récifs que la mer continuellement assiège et qui rendent périlleuse toute tentative de débarquement. Les Bleus occupaient le bourg dont ils avaient chassé les chouans. Le sergent qui les commandait était un de ces bas officiers, comme en comptait beaucoup l'armée révolutionnaire. Rude patriote, inflexible et bourru. Il était alsacien et s'appelait Metzger. Tout le village le redoutait. La petite Solange particulièrement tremblait lorsque, assise sur le seuil de la maison des Rouault, elle apercevait cet homme terrible dont la grosse moustache, les sourcils épais, les regards soupçonneux, la voix sonore et l'accent rocailleux étaient son cauchemar. Quand le sergent Metzger n'était pas avec sa troupe en expédition, il se tenait sans cesse à la porte du poste installé dans l'église désaffectée, à cheval sur une chaise et fumant obstinément sa pipe. De là, avec un air farouche, il surveillait les 3 rues du bourg. Un jour que Solange était allée chercher un pain pour la mère Rouault, elle revenait portant dans son tablier la lourde miche noire, quand elle aperçut, à sa place habituelle, devant le porche de la ci-devant église, le sergent Metzger, dont les gros yeux de loin la suivaient. Elle aurait bien voulu faire un détour, mais elle n'osa pas. Prenant bravement son parti, elle se mit à marcher vite, comme une fille qu'on attend, trottinant le long des maisons sans tourner la tête. Au moment où elle espérait avoir échappé au danger, elle entendit la voix retentissante du bleu. « Halte là, petite !» L'enfant sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Elle resta sur place, figée de peur, prête à défaillir. « Approche ici, allons, plus près !» reprit la voix. Elle obéit, la tête perdue. Maintenant, elle était à 2 pas du sergent et n'avait pas encore osé lever les yeux. Il la laissait là, sans rien dire. Enfin, d'un ton dont l'enfant tressaillit comme d'un coup de tonnerre. « Tu es une petite aristocrate » dit-il. Elle resta bouche bée, sans voix, se recommandant au bon Dieu. Elle n'avait pas très bien compris, mais elle savait que ce mot d'aristocrate désignait des gens qu'on faisait mourir. « Quel âge as-tu ? » reprit l'homme. D'une pauvre voix enrouée, chevrotante de terreur, elle répondit « 8 ans ?» Elle allait ajouter poliment « Monsieur », mais elle ravala le mot d'instinct, sûre que si elle l'avait prononcé, le soldat l'aurait égorgé tout de suite. Il n'avait pas l'air d'y songer. Il grommela « 8 ans, 8 ans, c'est bien ça !» Et tout de suite il ajouta « Tu es grandelette et forte pour ton âge !» Il dit cela d'un ton si différent que surprise, elle le regarda. Il était effrayant à voir, avec son bicorne de travers, d'où pendait un gland de crin rouge, sa face hâlée, sa pipe noircie, ses manches chevronnées, ses buffleteries blanches croisées sur la poitrine, son grand sabre et ses guêtres boueuses. Et pique tout cela, ses yeux profonds et pénétrants, qui semblaient la dévorer. « Allons, file » ordonna-t-il. Elle tourna les talons et reprit, secouée d'émotion et chancelante, sa marche rapide vers la maison. De ce jour-là, elle se sentit guettée par le sergent. Quand il passait, à la tête de ses hommes, devant la porte des Rouault, il jetait un regard dans l'intérieur de la chambre pour l'y chercher. S'il la rencontrait par les rues, il s'arrêtait pour la suivre des yeux, ou bien, de sa voix rugueuse, avec son diabolique accent qui faisait frémir, il l'interpellait à grands éclats. « Ah ah ah, petite !» Solange aurait bien voulu ne plus sortir, mais la mère Rouault, qui prévoyait que l'enfant ne reverrait jamais ses parents, et qui d'ailleurs n'était pas femme à l'héberger pour rien, l'utilisait aux courses du ménage. Ainsi réduite à se trouver presque chaque jour en présence de son épouvantail, Solange en était arrivée à faire le sacrifice de sa vie. Le méchant bleu n'attendait manifestement que l'occasion. Elle n'eut plus de doute, le jour où, la voyant occupée à laver des légumes dans la fontaine de la place, il l'interpella tout à coup. « Petite, comment t'appelles-tu ? » Bien convaincue qu'il prenait son signalement et que son heure était venue, elle répondit résignée. « Solange. » Le sergent s'exclama. « Solange ? » Il prononçait « Solange ». « Quel drôle de nom !» Il lui tâta les bras, la souleva de terre pour la soupeser. « 8 ans, fit-il. 8 ans, comme ça pousse !» Elle s'imagina être entre les mains d'un ogre, convoitant une proie assurée. La vie, avec cette perspective, devint pour elle lugubre. Décembre était arrivé, avec ses nuits sinistres, ses jours sans soleil. Il ne se passait guère de jours où les bleus ne s'emparassent de quelque émigré. Les exilés enduraient si grande misère à Jersey ou à Londres, ils souffraient d'un si ardent désir de revoir la France, que beaucoup, n'y tenant plus, se risquaient à débarquer. Les bleus, embusqués sur la côte, leur donnaient la chasse dans les rochers et sur la lande. Ils avaient dressé, pour traquer ce gibier d'un nouveau genre, d'énormes chiens qui dépistaient les malheureux se traînant la nuit dans les fossés, restant pendant le jour couchés sous les ajoncs. On les voyait traverser ploubalais, enchaînés, les vêtements en lambeaux, encadrés de soldats qui les conduisaient à Saint-Malo, à Rennes, où après un jugement sommaire, ils étaient fusillés. La loi était sans pitié et l'arrêt sans appel. Tout émigré pris était un homme mort. Quand vint la veille de Noël de cette année 1793, personne au village ne fit mine de songer à la douce fête de jadis. L'église était fermée, les cloches muettes. La nuit tomba très brumeuse. On avait entendu toute la journée les chiens aboyer du côté de la lande Baudard. Les bleus avaient dû faire bonne chasse. La petite Solange couchait au premier étage de la maison Rouault, dans une mansarde voisine d'un grenier à fourrage, plein d'ombre et de terreur, dont elle frissonnait, la nuit, immobile dans son lit, en songeant à tous les mystérieux dangers que pouvait recéler cette caverne. Ce soir-là, elle était bien triste. Tandis qu'elle se déshabillait en grelottant, elle avait souvenir d'autres veilles de Noël, joyeuses celles-là, alors qu'elle était encore avec ses parents et que son petit cœur se gonflait d'affection. Quel radieux réveil en ce temps-là! Quelles extases devant la cheminée remplie de jouets, de friandises, de paquets blancs enrubannés! Et tout en rêvant, elle tenait de ses mains lasses ses gros sabots, que certes elle n'allait pas déposer près de l'âtre, sachant bien qu'ils resteraient vides comme l'année dernière. Le petit Jésus avait donc peur qu'il ne venait plus en France. Elle crut entendre du bruit dans le grenier, et vite, Elle souffla sa chandelle et s'enfouit sous ses couvertures. Solange s'endormit. Pendant son sommeil, il lui sembla qu'une porte s'ouvrait tout doucement et qu'une ombre pénétrait dans sa mansarde. Elle glissa un regard hors des couvertures. La nuit maintenant était limpide, la chambre était éclairée par la lune. Rêvait-elle? Elle distingua que l'ombre était un homme vêtu comme ces émigrés qu'elle voyait passer dans les rues du bourg quand on les menait prisonniers à Saint-Malo. Elle entendit une voix très douce qui disait « N'aie pas peur, ma petite Solange, n'aie pas peur !» Solange n'avait pas peur. Elle sentit qu'une main, avec précaution, écartait les boucles qui couvraient son front. Un rayon de lune par la fenêtre sans rideau tombait sur elle. L'homme qui était entré la regarda. « Que tu es belle, ma petite Solange, et grande et forte !» Il semblait ne pas se lasser de la contempler. Et tout à coup, il la prit dans ses bras, la serra frénétiquement, l'étouffa de baisers. Elle ne savait plus si elle était éveillée ou si elle rêvait, mais tout de suite elle pensa que si son père vivait, s'il était là, il aurait pour elle cette voix et ces caresses si douces et cette étreinte et ce baiser-là. Il lui sembla que l'homme s'agenouillait près de son lit. Elle crut entendre qu'il sanglotait. Elle se blottit dans ses bras et, si heureuse, elle se rendormit. À l'aube, quand elle ouvrit les yeux, elle eut peine d'abord à rassembler ses souvenirs. La conscience bientôt lui revint. Décidément, elle avait rêvé. La chambre était vide, la porte du grenier close. Au-dessous, on entendait la mère Rouault aller et venir d'un pas lourd comme à l'ordinaire. Solange s'assit sur son lit et soudain, elle jeta un cri de joie. Sur ses sabots bien accouplés, elle venait d'apercevoir debout, dans la splendeur d'une robe de soie vert d'eau, une grande poupée, imposante et souriante, une poupée vêtue comme une milady, avec de belles boucles soyeuses qui tire-bouchonnaient autour de ses joues d'émail, un fichu de dentelle à la reine et des souliers de maroquin à boucles d'argent bien brillantes. L'enfant tomba à genoux devant la dame et tout de suite elle l'appela Yvonne. Elle se vêtit en quelques instants et tenant sa fille dans ses bras, elle descendit à la salle. La mère Rouault, la voyant paraître en compagnie de ce jouet merveilleux tel que son imagination n'en avait jamais rêvé, s'exclama stupéfaite. « Mon Dieu, Solange, qui t'a donné cette poupée-là » « Madame, répondit simplement l'enfant, c'est le petit Jésus. » La Bretonne resta bouche bée. Encore qu'elle fût croyante, ce miracle-là, tout de même, lui paraissait dépasser les bornes de la puissance divine. Pourtant, l'évidence l'écrasait. Elle savait bien que jamais nul n'aurait pu se procurer à Ploubalet une pareille merveille, pas plus qu'à Matignon, d'ailleurs, ou même à Saint-Malo ou à Rennes. Elle en devint, du coup, très respectueuse, examina sans trop oser y toucher la dame que lui présentait triomphalement Solange. Puis elle appela son homme. « Guette donc, Rouault, ce que le petit Jésus vient d'apporter à notre demoiselle !» Rouault fut moins étonné. C'était un cœur simple, peu connaisseur du reste en soierie et en affiquet. Mais déjà des voisines étaient accourues. Elles jabotaient les mains jointes d'admiration. Quelques-unes s'inclinaient naïvement devant le prodige indiscutable. D'autres, plus sceptiques, demeuraient hébétées, s'interrogeaient sans trouver une explication satisfaisante. Solange, elle, s'inquiétait peu de leur émoi, berçait Yvonne, l'embrassait avec précaution, osant à peine effleurer du bout des lèvres les boucles blondes et les joues luisantes de sa fille. Elle la mit à la fenêtre, lui montra la courte perspective de la grande rue de Ploubalet. Puis, comme la mère Rouault, revenant aux choses pratiques, l'expédiait en commission au bout du village, chez le bourrelier Coicot qui vendait des fèves, l'enfant radieuse emmena avec elle sa poupée. L'événement était déjà connu dans la moitié du bourg. Les paysannes se mettaient sur leur seuil pour voir. Solange passait, grave et fière, comprenant son importance. Quand elle arriva devant l'église, où se tenait à son ordinaire, à cheval sur sa chaise, le sergent Metzger, elle ne pensa pas cette fois à se détourner. Quel danger la pouvait menacer en un pareil jour? Sa joie intérieure était si complète qu'elle n'avait plus peur de rien ni de personne. Et quand le sergent l'appela, lui demandant ce qu'elle portait, elle s'arrêta avec aplomb et s'approcha du soldat. « C'est une poupée. »«
Une belle poupée, d'où tiens-tu ça, gamine ?»«
Monsieur le sergent, c'est le petit Jésus qui me l'a donnée. » Le jacobin se leva, terrible, repoussa sa chaise d'un coup de pied.
« Tu dis ?» hurla-t-il.
« C'est une poupée que le petit Jésus vient de m'apporter pour mon Noël, » répéta l'enfant. Metzger était médusé de tant d'audace.
« Tu te figures, » ricana-t-il, « que je vais croire à ces... »
Devant l'air candide de l'enfant, il s'arrêta. Mais lui prenant des mains la poupée, il l'examina soigneusement.
« Une belle dame, c'est vrai, » fit-il, « une vraie lady. Et tiens, regarde ce qu'il y a d'écrit sous les semelles de ses brodequins. Berkint, London. Il est donc anglais, le petit Jésus.
« Je ne sais pas, monsieur, » répondit en reprenant sa dame Solange, dont toute la joie était gâtée.
« Nous allons voir ça, » gronda le sergent.
Se tournant vers le poste, il appela « La cocarde !» Un caporal parut.
« Quelqu'un est-il entré hier dans le village ?»«
Je ne pense pas, sergent. Les hommes ont fait bonne garde. C'est vrai que sur le soir, les chiens ont hurlé d'une drôle de façon. » Mais nous avons battu les haies et nous n'avons rien vu.
C'est bon, rassemble tes hommes.
Il raccrocha sa giberne, sangla son ceinturon, prit son fusil et en tête de sa troupe, il se dirigea vers la maison Rouault. Solange, instinctivement angoissée, marchait près de lui, allongeant le pas et tenant serré contre son cœur la jolie Yvonne, toujours souriante. En arrivant chez les Rouault, le sergent disposa ses soldats, en plaça deux en sentinelle devant la porte, en dissémina d'autres dans le verger, derrière la masure, qui se trouva cernée de toutes parts. Puis, suivi du reste de ses hommes, il entra dans la salle, tenant Solange par la main, s'assit sur un banc, attira la petite entre ses genoux, et d'un ton très radouci, pour l'amadouer sans doute. « Allons, petite, raconte-moi tout. » Le cœur bien gros, un peu haletante, à voix très basse, elle commença son récit. Elle dit son rêve, l'homme qu'elle avait cru voir dans sa chambre, l'illusion des baisers reçus, et au matin, sa surprise en découvrant la belle poupée. Le sergent ne perdait pas un mot. Tout à coup, se tournant vers ses soldats, qui debout assistaient à l'interrogatoire, il commanda
« Allons, demi-tour, vous autres, et gardez-moi les dehors de la maison. Feu sur le premier qui fera mine de s'en évader. »
Les hommes sortirent. Metzger resta seul avec la fillette.
« Voyons, gamine, tu dis que l'homme t'a embrassée, qu'il t'appelait ma petite Solange, qu'il s'est agenouillé près de ton lit et qu'il a pleuré. »
L'enfant, aux questions, répondait oui de la tête, ne voulant pas mentir, et pressentant pourtant qu'une catastrophe la menaçait. Metzger ne se hâtait pas d'agir. Il posa ses rudes mains sur les épaules de Solange et comme se parlant à soi-même.
« Oui, » dit-il gravement, « j'ai une mioche comme ça au pays, là-bas, en Alsace, à Gersheim. Elle a 8 ans, elle aussi. Et pareillement, voici 2 années pleines que je ne l'ai pas vue. » Pour l'apercevoir même endormie dans l'ombre, pour l'embrasser un instant, pour la sentir sommeiller sur mon épaule, ses cheveux blonds contre ma joue. Moi aussi je risquerais ma tête. Tous les pères sont les mêmes, il paraît.
Il semblait réfléchir profondément. Puis, prenant son parti, rudement, il se leva, secoua la tête et se tournant vers la porte restée ouverte.
« 2 hommes avec moi, » fit-il, « on va fouiller la bicoque. » Solange poussa un cri. « Monsieur le sergent, attendez !» Elle l'avait écouté et subitement elle avait compris. C'était son père qui, la nuit, affrontant la mort pour rester durant quelques minutes près de sa fillette, avait quitté l'exil, traversé les mers, débarqué dans les rochers, rampé sous le fusil des sentinelles jusqu'au village. C'était son père qui, à l'idée que sa petite serait sans jouet pour son Noël, lui avait apporté la dame. C'est son père qui est là-haut, tapis dans le grenier, et qu'on va prendre, qu'elle va voir enchaînée et qui partira entre quatre soldats. Alors la pauvre petite, le cœur crevé, avec de gros sanglots qui secouaient ses épaules, se jeta sur le sergent. « Attendez, attendez !» L'Alsacien reprenait sa mine brutale et sa voix rude. « Quoi encore » fit-il. Solange avait une inspiration. Pour sauver son père, elle aurait donné tout ce qu'elle possédait, mais elle ne possédait rien qu'une poupée. Elle eut l'idée d'un grand sacrifice. « Monsieur le sergent, vous avez une petite fille de mon âge qui ne vous a pas vu depuis 2 ans ?» C'était au tour de Metzger à répondre oui d'un signe. « eh bien, ajouta Solange, les pleurs aux yeux. « Peut-être que, puisque vous n'étiez pas là, le petit Jésus l'aura oublié. Prenez ma poupée, envoyez-la lui, je la lui donne. » Le soldat se pencha vivement vers la fillette. Il la regarda de ses gros yeux tout humides. Il soufflait très fort, ses lèvres tremblaient sous sa moustache, et l'on distinguait sur ses joues ce mouvement des muscles qui dénote une émotion comprimée. Les deux hommes commandés entraient dans la salle. « Tais-toi, petite, et ne crains rien, » dit à voix basse le sergent. Puis s'adressant aux soldats, « Nous allons monter là-haut et tout visiter. Armez vos fusils et ouvrez l'œil. Toi, la mioche, passe devant. » Les trois militaires et la fillette gravirent l'escalier. Parvenus à la mansarde, le sergent posta l'un de ses hommes à l'entrée de la chambre, l'autre près de la fenêtre, puis, ouvrant le grenier, il y pénétra seul et referma la porte sur lui. Le cœur de Solange galopait dans sa poitrine. Au bout d'un instant, la porte du grenier se rouvrit. Metzger reparut. « Il n'y a rien là-dedans, dit-il. Redescendons. L'oiseau s'est envolé. Nous sommes bernés. » Et quand il se retrouva dans la salle du bas, seul avec Solange, il se pencha sur elle et lui glissa à l'oreille. « Retiens bien ceci. L'homme peut rester là-haut toute la nuit prochaine et la journée du lendemain. Dis-lui d'être tranquille, il ne sera pas inquiété. Qu'il parte la nuit suivante, qu'il gagne Lancieux et Saint-Briac, où il pourra se rembarquer. Le pays ne sera pas gardé, j'emmènerai ma troupe d'un autre côté. As-tu bien compris ?
Oui, monsieur le sergent.
C'est bon. Quant à ta poupée, je la prends. Je l'enverrai à ma petite Odile. Je la prends parce qu'un autre pourrait s'étonner comme moi que le petit Jésus apporte d'Angleterre des bibelots pareils à des bambines de ton âge. Cette fille-là t'occasionnerait trop de malheur. Là-dessus, motus, et n'oublie pas, par Lancieux et Saint-Briac. » Il sortit, rassembla sa troupe que le soir même, il emmenait pour 3 jours avec les dogues en expédition du côté de Matignon. Telle est notre histoire à toutes les trois, ajouta la marquise de Flavigny. Le seul drame de notre existence, à Odile, à Yvonne et à moi. 15 ans plus tard, quand je me mariais, je fis avec le marquis le voyage d'Alsace. J'allais à Gersheim, je m'informais du sergent Metzger, de sa fille Odile, car tous ces noms, vous pensez bien, étaient fixés dans ma mémoire. Je trouvais le vieux soldat dans sa houblonnière. Il avait quitté le service après avoir été décoré à Austerlitz de la main de l'empereur. Bien souvent, il avait conté l'histoire de la petite Solange à sa fille qui avait conservé la dame. Quand il mourut, quelques années après, je pris Odile avec moi. Elle me rapporta Yvonne, et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés.